Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue en ce mardi 23 février, septième jour de carême. Hier, notre méditation nous a conduit à réfléchir sur ce que devrait être une église qui a quelque chose de différent à annoncer au monde. Aujourd'hui, elle poursuivra sur cette voie en nous posant la question de ce que produit en nous la parole de Dieu et de notre rapport à nous-mêmes. Nous y entrons avec les mots du psaume 34. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Amen. Nous entendons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les versets 10 et 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Gloire à toi, Seigneur. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 1. La vie, la mort et le prochain, sixième partie. Les moines et les moniales du désert n'ont pas grand-chose à dire des théories sur la manière dont le Christ a expié nos péchés. Et en fait, la plupart du temps, ils semblent avoir assez peu à dire sur Jésus. Mais ce dont ils parlent et ce qu'ils vivent, c'est quelque chose qui ne commence à trouver du sens que dans le contexte de l'Évangile. Et de temps en temps, occasionnellement, mais juste assez souvent, ils nous rappellent que l'Écriture constitue en fait leur lecture et leur méditation quotidienne, comme nous l'avons entendu il y a quelques jours, dans l'échange entre Macaire et Théopemptus. Au centre de presque chacune des choses qu'ils ont à dire, il y a le commandement du Christ. N'ayez pas peur. Mourir à son prochain, refuser de juger, avoir assez de liberté pour demander, comme Abba Joseph, « Qui suis-je ?» Tout cela demande d'être libéré de la peur. Hier comme aujourd'hui, les communautés du désert disent à l'Église que sa tâche est d'être une communauté délivrée de la peur, une communauté intrépide, et elle nous indique quelques-unes des habitudes que nous devons cultiver pour nous libérer de la peur. L'habitude de la conscience de qui nous sommes, de l'attention aux autres, des habitudes ancrées dans un sens de la présence pénétrante de Dieu, ce sens qui vient de l'exposition constante à Dieu par la lecture de la Bible et la prière. Dit de cette manière, nous voyons pourquoi ce serait un contresens complet de lire la littérature du désert comme si elle ne parlait que d'être gentil et tolérant. Ne juger personne, cela sonne à première vue comme un slogan très contemporain, comme cette attitude de non-jugement qui accompagne si bien la réticence postmoderne à identifier comme des absolus le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Mais le désert n'a rien à dire qui ne s'inscrive pas dans une lutte pour la vérité. Un célèbre cynique du XVIIIe siècle disait « Dieu pardonnera, c'est son métier ». Les pères et les mères du désert ne sont pas moins certains que Dieu pardonnera, mais ils savent avec la même certitude qu'apprendre à recevoir ce pardon de Dieu de manière à ce que nos vies en soient transformées, c'est l'œuvre de toute une vie, et que cette œuvre exige de nous une surveillance impitoyable des habitudes égoïstes et paresseuses qui régissent notre pensée et notre action. Nous devons être à la fois tendus et détendus. Nous pourrions dire que nous savons bien comment parler de la tension, comment dresser un portrait de la vie chrétienne qui serait celui d'une lutte, d'un drame, dans lequel nous sommes appelés à des efforts héroïques et à une endurance héroïque. Et nous savons bien aussi comment parler du relâchement, de la confiance que nous pouvons avoir dans la miséricorde de Dieu quand nous échouons, du danger de prendre la vie trop au sérieux. Mais c'est loin d'être facile de voir comment tenir les deux en même temps. Nous pouvons nous imaginer dans la tension extrême de l'effort ou dans la détente du relâchement. Mais comment peut-on être dans les deux à la fois? Les maîtres du désert, de bien des manières, nous encouragent à attendre le pire de nous-mêmes. Depuis Antoine, ils nous disent qu'il nous faut nous attendre à être éprouvés jusqu'à la fin, et même que la fin apparente d'une épreuve, d'une tentation ou d'une distraction est un danger en soi. Nous devons être conscients de nos fragilités et ne jamais cesser de les pleurer. Dans la littérature du désert, il existe un genre fréquent de récits dans lequel un jeune moine pose à un ancien une variante de cette question. Est-ce que tu n'as pas gagné ton passage vers le ciel après tant d'années? Ton ascèse est si grande, ta pénitence est si ardente, ta sagesse est si visible. Et le vieil homme répond : Même si je pouvais vivre 3 vies, je n'aurais pas assez de larmes à verser pour tous mes péchés. Dans le traité bien connu de Saint Jean Climac, le Sinaïtique, nous pouvons lire des pages sur le besoin de pénitence qui sont à glacer le sang d'un croyant moderne. Ce que nous avons du mal à saisir, c'est que les moines et les moniales du désert savent, avec le plus profond sérieux, ce que leur coûte leur péché, leur égoïsme et leur vanité. Et pourtant, ils savent aussi que Dieu guérit et accepte. Ils savent que le pardon et la guérison de Dieu ne diminuent en rien l'intensité avec laquelle ils ressentent leur péché. Et leur connaissance de leur propre péché est ce qui leur donne cette tendresse presque choquante pour les autres pécheurs. Nous prions. Viens, Seigneur, viens trouver le chemin de mon cœur. Viens dire les paroles qui me font vivre, croire, aimer. Viens, Seigneur, dénouer mes liens, débrouiller mes écheveaux, ouvrir mes impasses, contourner mes obstacles. Viens me rejoindre où je me tiens caché, m'écouter quand je reste muet, me parler quand je fais le sourd. Viens, Seigneur, faire cela et plus encore, le faire avec délicatesse, justesse, tendresse. Viens comme la brise du matin, saluant le jour qui vient quand la nuit se retire. Viens, Seigneur, et aujourd'hui encore, ouvre mon oreille à l'écho de ta voix. Amen.